Bonsoir ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. En tout cas ici, à Paris, il est 19h.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Bienvenue dans la grande session d'information du soir avec des faits et des commentaires, des reportages et des analyses. Dans une demi-heure, ce sera les dessous de l'infox. Ce soir, gros plan sur la guerre des narratifs qui fait rage dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Et puis, Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI s'intéressera à l'ouragan Milton qui est l'occasion pour certains de générer des infox à des fins électorales. Dans un peu plus d'une heure, après le journal, ce sera Accent du Monde avec les regards croisés des rédactions en langues étrangères de RFI. Il sera question du procès Mazan, cette femme droguée par son mari qui l'a livrée à des violeurs. Les audiences sont suivies par des médias du monde entier. Également au sommaire, les réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre, la préparation des élections législatives au Sénégal dans moins d'un mois et la création d'un village francophone au Kenya. Afrique Soir s'intéressera entre autres aux obsèques de cette ancienne gloire du basket de la NBA aux États-Unis, le Congolais Dikembe Mutombo qui sera inhumé demain. Et puis dans deux heures sur Radio France Internationale, ici l'Europe qui recevra Pierre Vimont, ambassadeur de France et chercheur principal à la Fondation Carnerie Europe. Il commentera les conflits qui entourent l'Europe, des conséquences à prévoir de l'élection présidentielle américaine également. RFI Soir, 17h en temps universel, tout de suite, le grand journal. Et c'est avec vous, Martin Guez, à la une, le Premier ministre libanais qui appelle au cessez-le-feu.
Najib Mikati réclame l'arrêt immédiat des combats. Il demande une résolution en ce sens à l'ONU. Alors que deux soldats libanais ont été tués ce vendredi par l'armée israélienne, nous serons en direct de Beyrouth avec Paul Ralif.
La guerre au Proche-Orient et la paix à l'honneur à l'Académie Nobel.
Prix Nobel de la paix remis à une ONG japonaise pour son engagement contre les armes nucléaires. Ce sera notre dossier du soir avec Théo Renaudon. Nous irons ensuite aux États-Unis. Le candidat républicain Donald Trump donne un meeting dans le Colorado. État pourtant acquis à la cause des démocrates. Dirigeants haïtiens et kényans ont échangé à Nairobi aujourd'hui pour évoquer les renforts sécuritaires kényans en Haïti. Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne et passe par la case Berlin pour demander plus de soutien. Enfin, Philippe, en France, le président Emmanuel Macron se fait bien discret en pleine séquence loi de finances.
Au Liban, le Premier ministre appelle donc ce soir à un cessez-le-feu, cela après la mort de deux soldats dans le sud de son pays.
Exactement, Najib Mikati qui appelle ce soir à un arrêt des combats immédiats en direct à la télévision. Il demande à l'ONU une résolution en ce sens. Et il affirme que le Hezbollah est d'accord pour cette solution, alors que ce vendredi, deux soldats libanais ont été tués par l'armée israélienne et par ailleurs la FINUL, la force de l'ONU au Liban, qui a annoncé que de nouveaux casques bleus ont été blessés à la frontière avec Israël lors de deux explosions. L'État hébreu qui a surmené un examen approfondi au plus haut niveau. On retrouve en direct de Beyrouth notre correspondant Paul Khalife. Paul, la fin d'après-midi a donc été marquée par cette attaque israélienne contre une position de l'armée libanaise qui fait état de deux morts et de trois blessés dans ses rangs.
Oui, Martin, l'attaque a eu lieu contre un poste de l'armée situé dans la localité de Kafra, à 10 km de la frontière, dans le secteur central. Cela porte à 4 le nombre de soldats libanais tués par des tirs israéliens depuis le début de la guerre ouverte entre le Hezbollah et les Israéliens le 23 septembre. Quelques heures plus tôt, l'armée israélienne avait ouvert le feu en direction de positions de casques bleus des Nations Unies dans la localité côtière de Naoura, qui abrite le QG de la force onusienne. Deux soldats de la paix ont été blessés par ces tirs. Jeudi, déjà, deux casques bleus avaient été blessés lorsque leur position a essuyé des tirs directs de la part de l'armée israélienne, qui multiplie depuis 3 jours les tentatives d'incursion en territoire libanais dans le secteur occidental de la frontière, où elle rencontre une forte résistance de la part des combattants du Hezbollah.
Et Paul, comment expliquer alors la multiplication des incidents entre l'armée israélienne et des acteurs qui finalement ne sont pas partie prenante de la guerre en cours ?
Israël souhaite clairement modifier la mission des casques bleus de l'ONU et de l'armée libanaise dans le sud du Liban pour qu'elle passe du statut d'observateur passif à celui de force active chargée de démanteler l'infrastructure militaire du Hezbollah et d'empêcher la présence de combattants du parti chiite au sud du fleuve Litani. Tant que ces deux forces ne remplissent pas ce rôle, leur déploiement dans la zone frontalière est inutile et leur présence est même encombrante aux yeux des Israéliens. À cause de leur déploiement, les milliers de casques bleus et de soldats libanais peuvent ralentir la progression de l'armée israélienne sur le terrain, l'obligeant à faire des détours ou des contournements. Et même s'ils ne s'opposent pas par la force à l'avancée des troupes israéliennes, ils restent des témoins indésirable ou gênant.
Paul Khalife en direct de Beyrouth sur RFI. Plus de son côté, le Hezbollah qui poursuit des tirs nourris de roquettes sur le nord d'Israël, revendiquant une quinzaine d'opérations au nord d'Haïfa et donc sur le territoire israélien. Les sirènes d'alarme antiaériennes qui ont retenti dans plusieurs localités, l'armée faisant état d'environ 80 projectiles tirés depuis le Liban en moins de 3 minutes, et ce alors que le pays s'apprête à célébrer Yom Kippour. Et puis enfin à Gaza, 61 personnes ont été tuées ces 24 dernières heures, ce qui porte le total depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 à 42 126 morts.
C'est ainsi que la guerre se poursuit donc sur plusieurs fronts au Proche-Orient, alors que vient d'être remis le prix Nobel de la paix.
Et oui, dans cette actualité très lourde, c'est une ONG japonaise luttant contre l'arme atomique qui a été récompensée, l'organisation Nihon Hidan Kyo. C'est la une de notre dossier du soir et c'est avec Théo Renaudon. Bonsoir Théo.
Bonsoir.
Alors pour commencer, expliquez-nous ce que fait cette ONG.
Oui, vous l'avez dit, elle s'appelle Nihon Hidan Kyo. C'est aussi une ONG qui est connue sous le nom de Hibakusha en japonais. Ça veut dire ceux affectés par la bombe. L'ONG regroupe des survivants de bombardements américains d'Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 140 000 Japonais avaient été tués dans ces bombardements.
Et donc pourquoi cette ONG a finalement été choisie ?
Eh bien, le Nobel a tenu à la récompenser pour avoir lutté contre les armes nucléaires par des témoignages d'irradiés. L'organisation suédoise s'est alarmée que le tabou contre l'utilisation de ces armes soit remis en question, notamment par Vladimir Poutine qui agite souvent son arme nucléaire face à l'Occident depuis le début de la guerre en Ukraine. Le chef de l'ONG récompensé a également pointé Israël, rappelant que si utilisation de ces armes il y avait un jour contre Gaza, les conséquences seraient dévastatrices.
Et Théo, quelle portée politique concrète, réelle, pourrait avoir ce prix Nobel antinucléaire ?
Eh bien, oui, la question se pose franchement parce que les attentes autour de ce prix étaient nombreuses. En pleine guerre à Gaza, événement majeur cette année. Finalement, c'est un tout autre sujet qui a été abordé par le Nobel, mais c'est tout de même une prise de position très militante, selon la chercheuse spécialiste défense Marianne Perrondoise.
Je pense qu'on est quand même dans un positionnement très politique de la part des Nobel, qui prennent quand même position en rappelant ce que l'usage de l'arme nucléaire a fait il y a plus de 70 ans maintenant. Le Nobel a déjà été attribué en 2017 à justement cette coalition d'ONG qui sont pour l'abolition des armes nucléaires et dont fait partie cette ONG japonaise. Donc c'est un rappel. Le comité Nobel campe sur sa ligne.
Et Théo, ce Nobel remis à une association japonaise pose question sur la propre politique nucléaire de l'archipel.
Oui, parce qu'au Japon, malgré l'histoire du pays, tout le monde n'est pas anti-armes nucléaires, loin de là. Déjà, ça fait des décennies que l'archipel vit sous parapluie anti-nucléaire américain. En gros, ça veut dire que les États-Unis placent le Japon sous sa protection en cas d'attaque et utilisent sa dissuasion nucléaire pour ça. Et puis plus récemment, le tout nouveau premier ministre japonais Shigenuru Ishiba, nommé il y a 10 jours, s'est positionné pour l'installation d'armes nucléaires sur le sol japonais. Tout ça dans un contexte de tensions accrues en Asie. Le Japon, archipel coincé entre Russie et Chine, veut se protéger.
Oui, Théo Renaudon, merci. Notre habitué du Grand Journal du Soir et qui signait le dossier de cette édition.
La Corée du Nord accuse son voisin du Sud d'avoir violé son espace aérien, cela à 3 reprises depuis le début du mois.
Et oui, Pyongyang qui soupçonne Séoul d'avoir envoyé des drones sans pilote qui auraient largué des tracts de propagande. Allégation formellement démentie par la Corée du Sud, des drones volant dans l'espace aérien nord-coréen. Considéré comme une attaque militaire, une provocation intolérable, ajoute le ministère des Affaires étrangères. Il faut rappeler que les relations entre les deux pays sont au plus bas et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a désigné la Corée du Sud comme le principal ennemi de son pays.
Il est 13h passé de 9 minutes sur la côte est des États-Unis et dans la course à la Maison-Blanche, l'ancien président Donald Trump martèle son discours anti-migrant.
Pour se démarquer de sa rivale démocrate Kamala Harris et dans la dernière ligne droite avant l'élection, le candidat républicain de 78 ans qui se rend dans le Colorado et dans la petite ville d'Aurora, à l'ouest du pays. Et pourtant, le Colorado ne fait pas vraiment partie des États clés. Ces 10 grands électeurs sont acquis à la cause des démocrates. On retrouve en direct des États-Unis notre correspondant Guillaume Nodin. Guillaume, le choix du Colorado et le choix d'Aurora sont tout sauf anodins pour Donald Trump, venu pour parler de son thème favori, à savoir l'immigration.
Oui, le candidat républicain va prononcer son discours donc dans la ville d'Aurora, c'est dans la banlieue de Denver, et c'est l'une des villes qu'il avait citées en exemple comme faisant partie de celles qui sont livrées aux migrants. On a beaucoup entendu parler de Springfield, dans l'Ohio, où il avait accusé les immigrants haïtiens de manger les animaux de compagnie des habitants de la ville, ce qui est absolument faux. Les autorités locales, qui sont républicaines, ont démenti. Et bien, selon Donald Trump, Aurora serait livrée aux bandes de migrants criminels, en particulier vénézuéliens. Le maire de la ville, un républicain, explique que cela est très exagéré, mais Donald Trump n'en a cure. Tout cela, dit la campagne, à cause de la gestion de la frontière par Kamala Harris. Donald Trump annonce qu'il va parler de la manière dont il compte expulser des immigrants illégaux s'il est élu. Et s'il vient dans des États démocrates, il sera d'ailleurs en Californie demain, c'est aussi pour élargir l'audience de son message, car quand les médias s'interrogent sur cette stratégie inhabituelle, eh bien ils en parlent, et cela permet peut-être de toucher davantage d'électeurs, et cela peut compter dans une élection très serrée. Enfin, vous vous souvenez peut-être que c'est du Colorado qui était parti des poursuites pour l'empêcher d'être candidat, des poursuites finalement infructueuses, et on peut imaginer que Donald Trump éprouve une certaine satisfaction à montrer qu'il est là, et bien là.
Merci de nous rafraîchir la mémoire. Guillaume Nodin, en direct des États-Unis sur RFI, et puis Kamala Harris, qui est elle dans l'Arizona, l'un des 7 états clés susceptibles de faire basculer l'élection présidentielle. Le 5 novembre prochain, elle a appelé à la rescousse les anciens présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama pour battre campagne avec elle.
Sur RFI, dans 1h20, ce sera Afrique Soir. Mais sachez déjà que le Premier ministre haïtien s'est entretenu avec le président kényan.
Oui, Gary Conille et William Ruto qui ont échangé ce matin lors d'une rencontre consacrée à la MMAS, la mission multinationale d'appui à la sécurité de l'ONU. C'est une mission menée donc sous l'égide de l'ONU et pilotée par le Kenya pour aider les autorités haïtiennes. Haïti toujours en proie aux violences des gangs qui ont mené de massifs mouvements de déplacés. Et pour l'instant, 400 policiers kényans sont en renfort dans le Caraïbe. Ils sont arrivés au mois de juin et ils pourraient bientôt être rejoints par de nouvelles recrues. RFI Nairobi, Gaël Alex.
600 policiers sont en train d'achever leur entraînement et rejoindront Haïti le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé ce matin William Ruto. Lors de sa visite à Port-au-Prince le mois dernier, le président kényan évoquait plutôt un déploiement d'ici janvier. Les choses se sont donc accélérées, comme le demandait le premier ministre haïtien, qui a loué l'action bénéfique de la police kényane pour la stabilité de son pays. Le premier ministre assure que la vie reprend doucement son cours à Port-au-Prince. William Ruto, lui, promet la réouverture des écoles prochainement. Mais l'attaque de Ponson dès la semaine dernière qui a fait 70 morts, rappelle que la stabilité est encore loin d'être acquise. La MMAS manque cruellement de moyens. Sur les 600 millions de dollars de budget annoncés, 135 millions font encore défaut. Les États-Unis sont le principal bailleur de la force avec 380 millions fournis. William Ruto et Gary Conille demandent donc plus d'efforts à la communauté internationale. Avant Nairobi, le premier ministre haïtien était aux Émirats Arabes Unis. Il assure y avoir sécurisé des engagements sans en donner le détail. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
L'actualité en Europe à présent. Volodymyr Zelensky continue sa tournée sur le vieux continent.
Après Zagreb, après Paris, après Rome, le président ukrainien est ce vendredi en Allemagne pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz. À Berlin, il a martelé vouloir la fin de la guerre avec la Russie en 2025 et il appelle son partenaire allemand à ne surtout pas baisser son aide à l'Ukraine. Notre soutien ne faiblira pas, a garanti Olaf Scholz. Volodymyr Zelensky qui continue donc la tournée de ses alliés qui voulaient s'assurer de leur soutien. Correspondance à Berlin, Pascal Thibault.
Volodymyr Zelensky espère aboutir l'an prochain à une fin de la guerre entre son pays et la Russie. C'est ce que le président ukrainien a déclaré au début de sa rencontre avec le chancelier Scholz. L'étape allemande de cette tournée européenne était également destinée à présenter le plan de paix élaboré par Kiev, mais aussi à renouveler les demandes régulières faites à l'Allemagne en faveur notamment de la livraison de missiles de longue portée. Une mesure que rejette Olaf Scholz, craignant une escalade du conflit. Le chancelier a tenu à rassurer son hôte alors que les aides militaires bilatérales de l'Allemagne à l'Ukraine doivent baisser de moitié l'an prochain.
L'Ukraine peut compter sur notre soutien. Notre message à Poutine est clair. Une guerre d'usure ne fonctionnera pas. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas.
Olaf Scholz a annoncé une aide à court terme de 170 millions d'euros pour aider l'Ukraine à réparer des infrastructures endommagées. Le chancelier a aussi évoqué un paquet d'aides militaires supplémentaires d'1 400 000 euros cette année avec la Belgique, le Danemark et la Norvège. Cela s'ajoute à 600 millions déjà annoncés par l'Allemagne récemment. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Il en était question en titre au lendemain de la présentation du projet de loi de finances 2025. Le président Emmanuel Macron semble loin des affaires courantes.
Oui, simple spectateur du projet de loi de finances en Conseil des ministres, le chef de l'État qui a donné un entretien fleuve au magazine américain Variety. Il dit notamment tout son amour pour la série Netflix Emily in Paris, espérant que les tournages ne partent pas à Rome. Et donc assez loin, Philippe, de la proposition de budget 2025 de son Premier ministre Michel Barnier. Emmanuel Macron qui se retranche désormais sur son domaine réservé, Charles Turien Tomaka.
Emmanuel Macron, silencieux pendant le Conseil des ministres, laissant surtout la parole au ministre de l'économie Laurent Saint-Martin et se gardant bien de donner son avis sur le budget selon un participant. Pourtant, entre hausse d'impôts et augmentation de taxes pour certaines entreprises, les fondamentaux du macronisme sont remis en cause dans ce budget présenté en Conseil des ministres. Mais non, le chef de l'État reste en retrait, explique son entourage. Oui, ses convictions économiques sont connues, mais on a changé d'époque, c'est un temps nouveau, rappelle même l'Élysée, référence ici aux élections législatives perdues par le parti présidentiel. Pourtant, le président espère quand même que le texte sera amendé par le Parlement et que les députés de son camp y apporteront des modifications substantielles et arriveront à faire entendre leur voix. Et qu'importe les frottements et la rugosité dans la majorité atypique entre macronistes et droite traditionnelle, assume un conseiller.
Charles Torian Thomas, cas du service politique de RFI.
Doliprane pourrait passer sous pavillon américain.
Et oui, ça plaît pas du tout aux parlementaires français. Doliprane, un médicament de la vie courante, le plus utilisé, le plus vendu en France. Et des parlementaires de tous bords politiques qui exhortent le gouvernement français à bloquer cette opération au nom de la souveraineté sanitaire française. Et moi, je vous laisse avec Philippe Le Caplin pour la suite des RFI Soir.
Et vous, Martin Guez, on vous retrouve à 22h pour un nouveau journal. Dans l'immédiat, les sports. Salut Diouf, on commence par du football avec les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Et la Côte d'Ivoire qui accueille à San Pedro la Sierra Leone, coup d'envoi 19h temps universel. Les deux équipes vont d'ailleurs se retrouver 4 jours après, cette fois-ci au Liberia pour le match retour. Si les Ivoiriens sortent vainqueurs de ces deux confrontations, la qualification sera assurée pour la prochaine Coupe d'Afrique. Le sélectionneur des éléphants, Emers Faye, a à cœur de réaliser cet objectif en commençant déjà par le match de ce vendredi. Mais pour ce faire, le technicien ivoirien ne se met aucune pression.
On est sur une très très bonne dynamique, donc il n'y a pas de raison de se mettre la pression. Maintenant, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des objectifs clairs. Et le fait d'avoir cet objectif de se qualifier dès la 4e journée est un plaisir pour nous et ça nous fait revenir avec beaucoup de motivation et d'envie de se qualifier rapidement pour la CAN où on ira défendre notre titre. Mais en tout cas, non, franchement, il n'y a pas de pression particulière. C'est juste qu'on est, content et motivé de reprendre la compétition hein, qu'on a quittée il n'y a pas longtemps et de continuer notre série de victoires, continuer notre série de clean sheet et de se qualifier pour cette CAN.
D'autres rencontres sont à suivre au même moment dans la zone Afrique. La Tunisie reçoit les Comores, le Sénégal avec son nouveau sélectionneur intérimaire Pape Thiaw accueille le Malawi et la Guinée-Bissau se déplace sur la pelouse du Mali.
Voilà pour le foot, le tennis avec la suite des Master 1000 de Shanghai.
Et Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi. Le Serbe s'est qualifié en 3-7 face au Tchèque Bensik 6-7, 6-1, 6-4. Et à l'issue de la rencontre, il s'est exprimé avec émotion pour la première fois en interview sur son rival de toujours. Rafael Nadal, l'occasion pour Djoko de rendre un hommage vibrant au jeune retraité espagnol.
Il a été mon plus grand adversaire. Ce qui a le plus marqué ma carrière, c'est évidemment ma rivalité avec lui. On savait que ce moment allait arriver tôt ou tard, mais c'est quand même un choc quand ça devient officiel. Ça l'avait été pour Roger Federer il y a quelques années, Andy Murray aussi cette année. C'est assez émouvant, je ne sais pas trop quoi en penser. J'adore toujours la compétition, mais une importante partie de moi s'en est allée avec eux. C'est une triste nouvelle pour le monde du sport et du tennis. Rafa est une inspiration pour des millions d'enfants à travers le monde. Il peut être très fier de sa carrière.
Novak Djokovic affrontera donc Taylor Fritz, numéro 7 mondial, demain à 11h, temps universel.
Du rugby avec le top 14 et Toulouse qui récupère sa star.
Antoine Dupont est de retour 107 jours après son dernier match de top 14. Le Français médaillé d'or en rugby à 7 à Paris est attendu avec impatience sur les pelouses du top 14. Le meilleur joueur du monde 2021 va renouer avec le rugby à 15. Le stade toulousain 5e reçoit Clermont 6e au stade Ernest Vallon.
Et terminons avec du basket et l'Euroleague.
Le Paris Basketball va tenter ce soir à 18h30, temps universel, de décrocher une première victoire dans cette compétition européenne contre l'Olympia Milan. Les Parisiens pourront compter sur la présence de sa star américaine TJ Short, absent lors du dernier match.
Allez, encore un mot de cyclisme, cette fois avec un forfait de dernière minute.
Et le double champion du monde olympique de VTT, Tom Pidcock, le double champion olympique, pardon, ne sera pas finalement au départ du Tour de Lombardie. L'annonce a été faite il y a quelques heures. L'Anglais sera remplacé par son compatriote Ethan Hayter. Aucune raison officielle n'a été déclarée, même s'il se murmure que les relations avec Ineos, son employeur, ne sont pas au beau fixe.
Salut Diouf, et puis du ping-pong, mais ça on en parlera dans 10 minutes avec nos confrères du magazine L'Équipe.
RFI Soir, Philippe Le Caplin.
Et le monde en question comme chaque vendredi. Cette semaine, cap sur les États-Unis, secoué à l'est par deux ouragans, Helene et Milton, ce qui a été l'occasion pour Donald Trump, en pleine campagne électorale, d'attaquer les démocrates Joe Biden et Kamala Harris. Alors Bruno Daroux, première question, comment expliquer qu'un tel événement soit récupéré à ce point, politiquement, par l'ancien président ?
Eh bien, en grande partie, bien sûr, par l'approche de l'élection présidentielle du 5 novembre, tout en précisant que dans une démocratie, lorsque survient ce genre de catastrophe naturelle, il est normal d'observer comment réagissent les services concernés et les responsables politiques, puisqu'il s'agit de porter secours à des dizaines de milliers de citoyens le plus efficacement possible. Mais ce phénomène est très accentué aux États-Unis pour plusieurs raisons. D'abord, Milton a été le deuxième ouragan en deux semaines à s'abattre sur le pays, après l'ouragan Helene, qui avait fait plus de 200 morts. Ensuite, nous sommes donc à un peu plus de 3 semaines de l'élection présidentielle et les résultats s'annoncent très serrés dans les États clés, notamment en Géorgie et en Caroline du Nord, qui ont été touchés par l'ouragan Helene. Enfin, il y a le rôle des médias sociaux et leur utilisation par Donald Trump et ses partisans.
Oui, parce que les Trumpistes ont fait s'abattre sur le pays un tsunami de désinformation à propos de ces ouragans. Est-ce qu'on doit s'en étonner ?
Non, malheureusement, et c'est une stratégie bien sûr délibérée, quitte à raconter n'importe quoi. Il a par exemple été question de complots ourdis en secret pour accaparer les terres des victimes, ou encore de rumeurs propagées par Trump lui-même, affirmant que l'argent des secours avait été détourné par l'administration Biden pour aider les immigrés clandestins. Le candidat républicain a aussi suggéré que les démocrates faisaient tout pour empêcher l'aide d'arriver dans les comtés qui votent républicain. Last but not least, le gouvernement aurait lui-même orchestré les catastrophes naturelles qui ont frappé la côte est des États-Unis, selon cette fois l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene.
Encore une question, ces outrances, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact majeur sur l'élection du 5 novembre ?
Il est encore trop tôt pour le dire, il faut attendre les premiers sondages post-ouragan, mais les démocrates ont bien vu le danger. Des moyens de secours énormes ont été mobilisés pour venir en aide aux populations. Joe Biden a annulé un déplacement en Allemagne ce samedi, car lui et Kamala Harris savent que dans les prochains jours, ils n'ont pas le droit à l'erreur sur ce dossier. Et puis, le 5 novembre, on verra si les fake news du camp républicain auront influencé ou non certains électeurs ou électrices.
Le monde en question avec Bruno Daroux, comme tous les vendredis soirs, sur Radio France Internationale.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Bonsoir Jean-Michel Brochen.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint du magazine L'Équipe. Alors, un spécial cette semaine consacré au ping-pong, ou est-ce qu'il faut dire tennis de table ?
L'appellation officielle, c'est le tennis de table, hein, la Fédération officielle de tennis de table, évidemment. Il s'agit bien du ping-pong.
Et c'était le terme en tout cas employé lors des Jeux Olympiques. Et les Français ont fait merveille, notamment les frères Lebrun. C'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez ce numéro entièrement consacré à ce sport.
Oui, les frères Lebrun, notamment fait avec grâce à Félix Lebrun qui a eu une médaille de bronze en individuel. Avec son frère Alexis et le troisième larron Simon Gauzy, ils ont obtenu une médaille de bronze par équipe. Donc deux médailles pour la France en tennis de table, c'est totalement historique, hein, dans une Olympiade. Voilà, donc on s'est lancé dans un numéro spécial ping-pong. Ouais. Et voilà.
Et vous racontez d'ailleurs les trois balles match sauvées qui a permis donc à ce trio d'obtenir la médaille.
Oui,
de
donc
bronze.
On a décrypté le grand moment de la compétition par équipe, c'est en finale contre le Japon, le moment où Félix Lebrun a eu trois balles de match contre lui. Contre le numéro 1 japonais, et il les a sauvés avec brio. Donc on a fait décrypter ces trois balles de match par Jean-Philippe Gassien, qui était le médaillé olympique français de 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone.
Alors, particularité, l'un des frères Lebrun joue avec ce qu'on appelle la prise de la raquette en porte-plume.
Oui, alors la prise porte-plume, c'est une prise qui a été inventée par les Chinois il y a une quarantaine d'années. Quand les Chinois se sont vraiment mis au ping-pong, donc la Chine domine largement, bien entendu, le monde du tennis de table. Mais Félix Lebrun a repris cette prise qui a une valeur technique assez particulière. Elle permet de certains mouvements. Et du coup, bah, aujourd'hui, les frères Lebrun, notamment Félix, ils sont très populaires en Chine, justement, suite un peu à la fois à leurs exploits. L'autre particularité, c'est qu'ils ont des lunettes tous les deux, et les Chinois, et ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse jouer au tennis de table avec des lunettes. Donc il y avait une compétition en Chine la semaine dernière et ils ont été acclamés. Il y avait des supporters, des fans qui leur demandaient
des stars d'ailleurs.
C'est des stars
en Chine, mais également en France, à tel point que énormément de petits Français, de petites Françaises veulent faire du tennis de table. Et il y a une véritable vague dans les clubs et dans les fédérations françaises.
Oui, alors c'est traditionnel après les Jeux, après des bonnes performances aux Jeux, mais là cette année, donc il y a c'est de l'ordre d'environ 30% de fréquentation et d'inscription en plus. Donc on est allé à Cergy-Pontoise, le club champion de France par équipe de Pro A, faire la rentrée un peu des minots, donc des poussins. Et là, on a rencontré tous ces jeunes qui se lancent dans le tennis de table. Voilà, et plutôt que dans le foot, par exemple, plein de jeunes garçons qui ont envie de devenir comme Félix, quoi, voilà.
Et donc, il y a ce numéro spécial qui ne se limite pas à ce que vous venez de nous dire. Hein. Il y a beaucoup d'autres angles, hein, comme on dit dans notre jargon journalistique. Par exemple, vous intéressez à ces gens qui jouent à l'ancienne, ce qu'on appelle les puristes du ping-pong.
Oui, voilà, donc ils pratiquent le wood, donc en fait, c'est-à-dire ils jouent avec des raquettes en bois, telles qu'on a pu peut-être jouer quand on était enfant, raquettes en bois, ou des raquettes hard bart, ils appellent ça, c'est des raquettes avec des petits picots.
Ah, je me souviens très bien.
Voilà. Ouais. Donc ça, maintenant, en fait, c'est ce jeu qu'on pratiquait nous autrefois, avec une balle à l'ancienne aussi, donc sachant que la circonférence de la balle a été augmentée en l'an 2000, pour la télévision notamment, et bien ce jeu à l'ancienne est encore pratiqué par certains. On est allé à Orléans dans un club où ils jouent un peu à l'ancienne. Voilà, comme on pouvait, vous et moi, le jouer quand on était enfant.
Et autre retour dans le passé, si je puis dire, c'est il y avait à l'époque des spectacles de ping-pong.
Oui.
Vous êtes allé voir si ça existait encore.
Alors, c'était Jacques Secrétin, hein, qui était le grand champion français de ping-pong des années 70 et 80, qui est décédé il y a 5 ans. Avec son beau-frère Vincent Purcard, il faisait des spectacles haut en couleur, très drôle, dans les années 70-80, très très populaire.
Quoi.
Voilà, et on a été à la rencontre de deux jeunes champions français qui font partie du top 50 français et qui ont remis ça un petit peu au goût du jour avec beaucoup de succès.
Alors il y a beaucoup de gens qui jouent au ping-pong un peu partout d'ailleurs. Hein. Si on va sur une aire d'autoroute, dans les jardins publics, on voit des tables. Alors des tables fixes, généralement c'est du béton hein, ou du ciment. Elles sont nombreuses.
C'est une politique de la Fédération française de tennis de table hein, qui a développé un peu la mise en place de tables ouvertes au public. Il y a environ aujourd'hui 4500 tables en France hein, ouvertes au public comme ça, donc sur les aires d'autoroute, dans un jardin public, voire dans une rue, dans le parc de Choisy par exemple, il y en a plein. C'est un lieu assez connu des spécialistes. Le niveau d'ailleurs est assez bon hein, quand on se présente sur ces tables là. Donc voilà.
Bon, enfin, il n'y a pas les mêmes particularités, il n'y a pas les mêmes rebonds.
Ça dépend de la nature de la table. Ça peut être une table en ciment ou une table en bois. Effectivement, c'est pas la même chose partout. Disons que c'est surtout l'accès gratuit à tout le monde qui est intéressant.
Sinon, si on a de la place et un peu d'argent, une table, en général, c'est à peu près 1100 euros, hein, une table de ping-pong. Vous en mentionnez une, d'ailleurs, dans le magazine L'Équipe. Et puis, il y a aussi ce portfolio, hein, c'est-à-dire une collection de photos consacrées à ces tables de jardin.
Voilà. On a choisi une dizaine de tables en France et notre photographe est allé les prendre en photo, ce qui donne des photos.
C'est bucolique, hein, c'est au bord d'un étang, près du lac de Trémelin, tiens.
Assez belle, un peu de poésie, un peu, voilà, il n'y a pas forcément toujours du monde autour de la table, mais au bout d'une aire d'autoroute, à côté des camions ou à côté d'un lac, voilà.
Et alors, ce titre aussi, et cette enquête avec des photos, un reportage, un revers contre Alzheimer, c'est quoi ?
Eh bien, il se trouve que de certains spécialistes de la maladie d'Alzheimer ont constaté que la pratique du ping-pong aidait les malades à aller mieux, à se sentir mieux, à se redresser, à sortir un peu d'un repli sur soi. Et donc, du coup, c'est utilisé à titre expérimental, mais avec beaucoup de succès dans certains établissements, notamment celui qu'on est allé visiter. À Levallois.
Et ça permettrait de retarder l'avancée de la maladie. Hein.
Voilà, donc ça aide en tout cas les malades, ça aide les soignants. Et ça donne un peu d'espoir et d'encouragement aux soignants et aux familles.
Merci Jean-Michel Brochen. C'est donc à lire dans le magazine L'Équipe.
RFI, la sélection du mois.
Flavia Coelho. Tiakola et SDM.
On les allume, on les éteint, détente, caresse la détente.
RFI Musique.
L'atelier des médias, Steven Jambot.
Depuis quelques semaines, le site d'information français Mediapart compte en son sein une journaliste responsable éditoriale aux questions raciales. Elle s'appelle Sabrina Cassa et j'ai décidé de la recevoir pour qu'elle m'explique son rôle et les enjeux de son poste, mais aussi les chantiers qu'elle compte ouvrir. Rendez-vous dimanche à 11h10 temps universel sur RFI pour l'atelier des médias.